très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui se battent pour mener à bien des projets et défendre les savoir-faire français. Aujourd'hui, coup de zoom sur le secteur du cinéma, juste avant la cérémonie des Césars. Doublage, tournage, musique de film, c'est indispensable aussi dans le monde du 7e art. Une ébénisterie d'art qui a gagné ses lettres de noblesse au fil du temps. C'est Moissonnier 1855, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous partez au ski en voiture pour ne pas changer les pneus. Si vous pensiez à Musher, une chaussette qui s'enfile sur le pneu justement, c'est ça la solution. Et c'est la France qui bouge aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire ce que vous aimez au cinéma, car aujourd'hui ce sont les acteurs français du 7e art qui sont à l'honneur. Ce soir, cérémonie des Césars oblige, Janissa.
Et oui, on va parler cinéma bleu, blanc, rouge. Venez nous parler de votre cinéma, de ce que vous aimez. Venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. 39-21, le standard, 50 centimes la minute. On lit également tous vos messages et vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et alors, avec cette cérémonie des Césars qui s'annonce d'ici quelques heures, on a voulu nous passer en coulisses, aller voir ceux qui sont indispensables, mais dont, c'est vrai, on parle un peu moins, sans qui, pourtant, les films ne se feraient pas. Pour les accueillir, à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, François Sigel, fondateur de la revue Oui Demain. Bonjour François.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes nombreux à aller voir des films américains, je suppose, au cinéma, et certains d'entre vous choisissent les séances en VF. Et pour que les personnages nous parlent, justement, en français, il y a des spécialistes du doublage. Bonjour Sophie Frilet.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Titre à Film. Titre à Film, c'est le spécialiste du doublage et du sous-titrage.
Bonsoir Monsieur Hunt. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est d'empêcher les apôtres d'acquérir le plutonium en utilisant tous les moyens dont vous disposez. Si vous ou l'un de vos coéquipiers au sein de Mission Impossible êtes capturé ou tué, le ministre niera à vos reconnaissances de vos activités. Bonne chance, Ethan. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes.
Ce qu'on entend, c'est évidemment un extrait en français de Mission Impossible. C'est vous comme pour le Grinch ou pour Dragon 3?
Absolument. C'est une de nos sociétés qui a en effet réalisé le doublage français confié par nos clients distributeurs de ces grands films.
Ça fait 4 générations que la famille, votre famille, dirige l'entreprise. Vous êtes 80, je crois, en permanence et un peu plus de 2000 comédiens qui viennent chaque mois pour assurer les doublages qu'on entend.
Oui. Parce que nous assurons les doublages de longs métrages, mais également les doublages de beaucoup de séries. Et nous faisons énormément de sous-titrages. Titre à Film a créé, inventé le sous-titrage en 1933, au moment où le cinéma, qui était muet, est devenu parlant et a eu besoin de continuer à voyager à travers le monde. Et
voilà. Oui, vous dites 1933, je crois que même... À ce moment-là, Charlie Chaplin vient dans les studios à la rencontre des dirigeants de Titre à Film.
Un petit peu plus tard, en effet, Charlie Chaplin avait confié à la dirigeante de Titre à, qui était Nina Kaganski à cette époque-là, lui avait confié la mission de réaliser une projection du film Peppermint Frappé dans lequel jouait sa fille. Et il nous a laissé une magnifique dédicace qui trône dans nos bureaux aujourd'hui et dont on est très fiers.
Le premier gros contrat qu'obtient la société, c'est le sous-titrage de Scarface.
Effectivement, produit par Howard Hughes. Et ça a été le premier d'une longue série, puisqu'on est vraiment très honorés de pouvoir sous-titrer tous les grands, grands films, ainsi que énormément de films indépendants. Et c'est également une de nos grandes fiertés qu'ils soient français, puisqu'on sous-titre dans toutes les langues et notamment vers l'anglais. Qui font la joie des spectateurs.
Il y a eu quand même des périodes un petit peu compliquées hein, dans la vie de cette entreprise, notamment avec l'arrivée du numérique. Je crois qu'en 2010, vous avez bien failli mettre la clé sous la porte. Il y avait même à Cannes, paraît-il, des gens qui disaient « ils vont fermer ». Là, c'est un peu plus tard, c'est en 2014. Et puis non, pas du tout, parce que justement, vous avez su vous régénérer.
Écoutez, cette entreprise a vécu finalement les affres de son époque. Ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite les différentes révolutions technologiques. Mais il est vrai qu'en 2010, on a eu une véritable mutation qui a failli balayer titre à film du paysage français des industries techniques, puisque l'argentique a disparu au profit du numérique et notre métier consistait à graver des sous-titres dans la pellicule. Donc il a fallu quelques années pour retrouver un modèle industriel, retrouver un modèle économique, et nous sommes arrivés quasiment au bout de l'exercice, presque exsangue, mais il est vrai qu'on avait vraiment une volonté familiale chevillée au corps de transformer cette entreprise, et quelques atouts non négligeables qui étaient la grande confiance que nous portaient nos clients, qui sont nos clients depuis les années 30, qui sont les distributeurs et les producteurs de films, et ça nous a tous portés. À ce moment-là, il y a eu également un transfert de génération, et David Frillet et moi-même sommes arrivés aux commandes.
Voilà. Qui est votre beau-frère.
Hein. Absolument.
Vous faites aussi le sous-titrage pour les films français, ça c'est une autre partie de votre activité, mais c'est important, on oublie que nos films aussi vont à l'étranger et voyagent.
Exactement, donc nous les sous-titrons en anglais, mais également toutes les langues, on couvre environ une quarantaine de langues. Pareil en doublage, une quarantaine de langues, mais également nous réalisons le sous-titrage pour sourds et malentendants, ainsi que l'audiodescription pour les aveugles. Donc notre idée est vraiment de rendre le cinéma accessible à tous.
François, oui, notre coach.
J'aimerais comprendre le processus, c'est-à-dire vous recevez un film en anglais, par exemple, voire en chinois. C'est quoi les étapes qui vont amener, effectivement, à ce qu'on va voir effectivement, à l'écran, c'est-à-dire, quand on ne possède pas la langue, lire, effectivement, en bas de l'écran, voilà la parole que les gens disent. C'est-à-dire, la première partie, j'imagine, c'est la traduction, donc quel type de traducteur, chaque auteur, globalement, a ses exigences par rapport au langage. Puis après, il y a les mots qui sont employés, il y a l'écriture, donc si vous pouviez nous en dire quelques mots.
Alors, vous avez raison. C'est vraiment une succession d'un grand nombre de professionnels qui sont chacun experts spécialistes et qui se succèdent au fur et à mesure de la réalisation du travail. Donc ça commence par un travail de détection. Que l'on fasse du sous-titrage ou du doublage, on a besoin d'identifier les moments de parole qui vont être traduits, qui vont être adaptés, puisque évidemment on ne réalise pas une traduction littérale, mais une adaptation pour que le texte créé, qu'il soit du sous-titre ou qu'il soit du texte qui sera dit par un comédien, entre dans l'espace de parole qui lui est imparti dans l'œuvre, ainsi que qu'il puisse bien
l'interpréter.
Exactement. Au-delà de cette partie adaptation, il y a ensuite, pour un doublage, l'étape qui consiste à constituer un casting, donc à identifier quels vont être les comédiens dont les voix vont être placées sur le film, à réaliser l'enregistrement de ces comédiens, à effectuer ensuite le mixage de ces voix pour qu'elles puissent s'intégrer dans la version originale du film. Et ensuite, voilà, le film est en version française.
Et tout ça, ça prend combien de temps ?
Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une série ? Est-ce qu'on parle d'un long métrage ?
Oui, parce que vous travaillez énormément avec les séries aussi. Hein,
exactement.
Et avec les plateformes comme Netflix, par exemple.
Exactement. Exactement. En termes de délai, on peut avoir des délais très, très rapides. On réalise aujourd'hui le sous-titrage de talk show quotidien en 3 heures. On reçoit les éléments juste après leur diffusion américaine et on relivre une chaîne de télé française en 3 heures, 52 minutes. Tout comme pour un long métrage, cela va nécessiter 2 à 3 semaines, puisque les étapes elles-mêmes sont très longues.
Elisabeth, en France, il y a combien de doubleurs ?
D'abord, les doubleurs, ce sont des comédiens. Il y a la phase expert et spécialiste dont vous parliez pour traduire. Mais les doubleurs sont des comédiens. Ce sont eux qui travaillent dans l'ombre des acteurs étrangers pour enregistrer justement les versions françaises. En France, il y en a près de 4000 pour le cinéma et les séries télévisées. Il y a un studio à la Plaine-Saint-Denis. Il y a une société française qui s'appelle Dubbing Brothers, qui existe depuis 1989, qui double beaucoup de films étrangers avant leur sortie. Et donc, voilà, ce sont des comédiens qui n'apparaissent jamais à l'écran.
Sophie Frélay, vous avez aussi créé de nouveaux studios. C'est important de le signaler. C'est chez vous, par exemple, que Cotillard et Canet ont posé leur voix sur Les Mignons.
Exactement, exactement. On a deux types de studios. Des studios qui sont destinés à faire du doublage pour le cinéma, qui ont la taille de salles de cinéma, donc très imposants et très grands. Et des plus petites salles qui ressemblent à ce studio dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui eux sont destinés à créer les doublages des séries.
Allez, la dernière question avant une petite pause.
Il doit y
François.
Avoir des cauchemars pour vous, c'est-à-dire des langues impossibles. Là, tout a l'air facile, maîtrisé, effectivement. Chaque solution, chaque problème a sa solution, chaque solution son problème, mais il y a quand même des choses.
Bien sûr,
Des langues improbables.
Lorsque nous avons à créer des sous-titrages en coréen, en hindi, donc dans des alphabets qui ne sont pas du tout les nôtres. Bien sûr, c'est très compliqué.
Oui, ça prend plus de temps.
Bien sûr, lorsque nous avons à réaliser tous les jours le sous-titrage de ce talk show dont je parlais, qui fait extrêmement appel à l'actualité, à une culture qui n'est pas spécifiquement la nôtre. Donc il y a des niveaux de langage qui sont très spécifiques. Mais au-delà du cauchemar, ça fait plutôt partie de ce qui nous passionne.
On reste ensemble, on continue à parler cinéma aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10. La France bouge sur Europe 1 avec ce soir l'événement, on vous en parle hein, depuis le journal de midi et demi, les Césars 21h en clair sur Canal+. Du coup, Raphaël Duchemin, vous nous proposez aujourd'hui de découvrir ces entreprises qui travaillent en coulisses pour le cinéma français. Et vous pouvez réagir et poser toutes vos questions, n'hésitez pas, 3921 c'est le standard, hashtag Europe 1, ça c'est pour Twitter.
Pour faire un film, il faut des projecteurs, des éclairages et aussi un lieu. Bonjour Didier Diaz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société Transpalux, société qui existe depuis 1950.
Oui,
et alors, vous exploitez aussi les studios de Saint-Ouen et ceux de Brie-sur-Marne depuis 2015. Mmh. Brie-sur-Marne, c'est toute une histoire. Hein, parce que au début, ils ont été construits pour la SFP, pour travailler d'abord pour la télévision, aussi un peu pour le cinéma. Vous arrivez et vous trouvez des bâtiments qui sont à l'abandon, on peut le dire, et il va falloir tout repenser.
Oui, un petit peu à l'abandon, mais la conception des studios était assez extraordinaire. C'est pour ça qu'on était intéressé par ces studios qui sont encore aujourd'hui, malgré le vieillissement, les plus performants, avec des ateliers assez incroyables, une menuiserie de plus de 1000 mètres carrés. C'est vraiment l'outil qui correspond à nos besoins. Et on a été soutenu beaucoup, je tiens à le dire, par les chefs décorateurs et les chefs constructeurs qui nous ont beaucoup aidés dans cette opération et qui continuent de nous aider. Et je pense qu'on va arriver à les retransformer, à les remettre au goût du jour.
Voilà. Oui, c'était sur le point de fermer en 2014.
Oui, absolument.
Ça veut dire que vous avez redonné une vie à ces studios. Il y a des hangars entiers où il y a des décors, il y a des objets, il y a des meubles, il y a des accessoires, il y a une histoire
qui est là. C'est une petite ville pour notre métier. Il y a évidemment des accessoires, il y a une boîte qui est installée qui s'appelle Les Deux Ailleurs qui fournit tous les accessoires. Il y a des quantités incroyables de choses. Il y a puis beaucoup de techniciens, beaucoup de monde autour de cet endroit qui est un lieu de rendez-vous aussi. Parce que les gens de cinéma aiment bien se croiser, donc on voit plein de monde. Et on a un directeur des studios qui s'appelle Pascal Bécu, qui est certainement la plus grande pipelette du cinéma, mais qui s'occupe bien de la maison.
Bon, et vous dites, nous, on a voulu en faire le Hollywood français.
On essaie. Alors, on n'a pas complètement réussi. On est en discussion actuellement pour la finalité des choses et pour...
Mais c'est-à-dire, vous avez voulu un lieu où il y ait de l'espace, où on puisse faire les choses.
Ou si vous voulez, pour une fois, c'était des vrais studios, même s'ils étaient en mauvais état, c'est quand même des studios qui ne sont que deux, qui ont été construits en 1974. Pas très très vieux, c'est pas les studios du début de siècle, c'est pas... Il y a évidemment des travaux à faire, mais ils étaient sacrément bien conçus.
Vous vouliez qu'il y ait un confort de travail
et vous n'avez pas regardé le
prix du foncier, on va dire.
Ouais, hein, absolument. Voilà. Et les jeunes qui reviennent, tous les metteurs en scène qui reviennent dans les studios de Brie, pour certains, les découvrent et sont très, très étonnés de la qualité des studios.
Vous tournez déjà dans ces studios, évidemment. Combien est-ce que vous avez de métiers qui sont présents dans les studios de Brie?
Il faut imaginer ce qu'on fait nous globalement. On fait d'abord la caméra. Tout à l'heure, vous avez parlé de plein de choses.
Bah
il y a
oui,
la
les
caméra
projecteurs,
d'abord.
Les éclairages, ça c'est vous
les
aussi.
Les projecteurs, ça c'était à l'origine de Transpalux. La machinerie, bien évidemment. Et puis, il y a une menuiserie, il y a plein de choses. On peut peindre, on peut faire plein de choses. C'est une petite ville, hein, les studios.
Et alors, vous avez tourné beaucoup de films, et notamment celui-là.
À présent, l'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le District 12 au 74e Hunger Games.
Hunger Games, moi je ne savais pas que c'était chez nous, à Brie-sur-Marne.
Oui.
Comme l'odeur de la papa verte, comme les rivières pourpres 2, un long dimanche de fiançailles, je pourrais en citer plein
ça. En plus, ça me permet de parler un tout petit peu du crédit d'impôt qui nous a beaucoup aidés. On s'est battu pour le crédit d'impôt. Je sais que quelques humoristes en ce moment le critiquent, mais c'est quand même assez important. Si on en est là, c'est quand même grâce au crédit d'impôt. À une certaine époque, tous les films partaient dans les pays de l'Est. Je connais bien le problème, puisqu'on était en Tchéquie. J'étais presque installé, moi, en Tchéquie. Aujourd'hui, on a réussi à les ramener, et c'est très important. J'ai œuvré pour le crédit d'impôt avec Luc Besson à une certaine époque. On a été soutenu par le CNC, par Madame Brodin, et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce crédit d'impôt, qui aujourd'hui est quelque chose d'indispensable.
CNC, le Centre National du Cinéma.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose. J'ai des chiffres, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vous les laisserai.
Oui.
C'est assez surprenant.
Je voudrais qu'on regarde, Elisabeth, les studios, parce qu'il y a le vôtre, évidemment.
Mais il y en a d'autres.
Vous parlez de Luc Besson.
Bien sûr.
Mais il y en a d'autres. On en a trouvé notamment en région, parce que là aussi, ça se développe
mais
pas mal.
Oui, Provence Studio. Vous connaissez ?
Oui, bien sûr.
Et ben,
Marchetti, ouais.
Et ben eux, vous les connaissez bien apparemment.
Ouais.
Alors eux, ils sont dans le sud. Ils sont, c'est dédié au tournage et dans Marseille, si vous voulez, Provence Studio, c'est un acteur essentiel du cinéma dans le sud. Il y a des décors naturels. Ils ont 22 hectares, dont un bâtiment de 26 000 m². Ça me paraît, c'est important.
Oui, oui, oui.
Bon, comparé à vous, peut-être un petit peu moins, mais.
Non, mais si vous voulez, oui, non, mais d'abord, c'est très courageux, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qu'on aime, moi, que j'aime bien et qui.
Provence Studio.
Oui, mais qui est nécessaire dans notre métier, qui fait des choses intéressantes. Le problème,
c'est. C'est important que tout ne soit pas centralisé à Paris,
site,
enfin, dans la
site,
région.
Le site était à lui, il l'a aménagé en studio, ce qui est une idée formidable. Et il a eu le courage de le faire et on essaie de l'aider au maximum.
Une question de notre coach, François Sigel.
Oui, là, je vais revenir sur l'activité Transpalux.
Ouais.
En gros, j'imagine que chaque metteur en scène a ses foucades, hein, au niveau de l'éclairage, au niveau du matériel. Donc, tout ça évolue en permanence. Donc, comment ça se passe? Vous êtes un énorme stockeur de matériel. Vous êtes obligé d'acheter tout ce qui paraît sur le marché. S'il y en a un qui dit « je veux tourner en 8K, en 22K, etc. » Est-ce que, comment ça se passe?
C'est un grand magasin.
Un peu. Non, mais bon, alors le metteur en scène, c'est une chose, mais il a son chef opérateur. C'est le chef opérateur qui est notre client, en gros.
Ah, c'est avec lui qu'il faut être en bonne relation.
Oui. Alors, toutes les nouveautés, bien sûr, ils adorent les gadgets, tous les jouets, etc. etc. Alors, on se bat, on essaie de leur fournir ce qu'on peut fournir, le maximum. Évidemment, il faut suivre son époque, mais on ne peut pas tout le temps répondre à tout.
Vous parliez tout à l'heure du crédit d'impôt, mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi aujourd'hui un réalisateur, un metteur en scène va venir chez vous? Qu'est-ce qui va aller faire battre son cœur?
D'abord, non, le crédit d'impôt, c'est déjà qu'il ne part pas ailleurs.
Oui, j'ai bien compris.
C'est ça,
il
ne
s'en va pas,
donc,
il reste ici. Mais après, il vient à Brie, pourquoi?
Pour le confort, pour l'endroit. Si je vous invite à venir voir, il faut que vous allez comprendre tout de suite, c'est un endroit assez incroyable, où on sent très à l'aise, où tous les... Alors, la génération des jeunes metteurs en scène qui découvrent vraiment le studio et la qualité de ce studio, tombent sous le charme. C'est pour ça qu'on les voit revenir et qu'ils en parlent beaucoup.
On reste ensemble, on continue à parler cinéma aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et un film, c'est aussi une bande originale, une musique, un générique. C'est ce que fait l'Orchestre National d'Île-de-France qui a créé le tout premier studio Made in France dédié à Alfortville.
Ce soir, l'événement cinéma, c'est la cérémonie des Césars que vous verrez en clair à 21h sur Canal+. On en parle avec vous, Raphaël Duchemin, puisque la France bouge aussi en 7e art avec ses entreprises qui travaillent en coulisses pour le cinéma français. Nous les découvrons, ils sont vos invités jusqu'à 14h.
Et alors, je vous propose juste d'ouvrir vos oreilles et d'écouter. La musique que vous entendez, est-ce que vous l'avez reconnue? Oui, c'est celle de la bande originale de Minuscule 2, compositeur Mathieu Lambollet. Bonjour Fabienne Voisin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'Orchestre National d'Île-de-France depuis 7 ans maintenant. Et vous faites travailler 95 musiciens qu'on vient d'entendre en permanence dans l'orchestre symphonique.
Tout à fait. C'est l'Orchestre National d'Île-de-France qui a le bonheur de mener cette mission de proximité. C'est un orchestre mobile. Et finalement, son leitmotiv, c'est l'accessibilité à 4 siècles de répertoire qu'il diffuse partout sur le territoire francilien. Il est singulier dans cette démarche et dans la démarche qui complète évidemment cette dynamique qui est celle de l'action culturelle. Et forcément, naturellement, on s'est demandé pourquoi, parce que nous sommes béotiens par rapport à Didier et Sophie dans l'univers du cinéma, pas tout à fait, puisque c'est un orchestre qui a toujours eu une envie de cinéma, qui a fait des ciné-concerts pour les proposer au public.
Mais vous avez créé le premier studio pour la musique de film en octobre 2018, donc c'est vrai que c'est tout récent. Racontez-moi, comment ça se passe? Est-ce que c'est une longue bataille? Est-ce que c'est un long combat pour arriver à faire?
Alors, d'abord, c'était un rêve. Nous sommes rendus compte tout simplement que la région Île-de-France était la région cinéma. D'ailleurs, Mme Pécresse le dit très bien, c'est dans sa politique actuelle.
La présidente de la région.
La présidente de la région. Et que la plupart des tournages de films se faisaient en Île-de-France. D'abord, il y avait la reconnaissance aussi du compositeur Camille Saint-Saëns, compositeur français, a été le premier à créer une musique originale pour le Duc de Guise, je crois, 1908, film muet. Et donc on se disait, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne participerait pas à cette dynamique en Île-de-France, puisque orchestre de proximité, on sait très bien que la musique de film est un pouvoir extraordinaire pour faire écouter de la musique. Mélancolia, oui, et puis... 3 heures de Wagner. Par exemple.
Et puis surtout, vous vous êtes aperçu entre-temps qu'il y avait de la musique classique qui était dans les films et qu'on partait l'enregistrer ailleurs.
Ah voilà, le constat que nous avons fait, c'était aussi bien les tournages se faisaient en France, mais alors les enregistrements, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, étaient ailleurs, en tout cas, peu importe où, quelque part. Et donc nous avons mené une espèce d'enquête pendant 5 ans. Je disais tout à l'heure que c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. On a rencontré des gens qui étaient passionnés, tout autant que nous. On pensait que le spectacle vivant, nous étions les seuls à être aussi passionnés, qui nous ont envoyés sur des expériences qui avaient été là. Et au fond, on a dessiné avec eux, donc une cinquantaine d'interviews, on a dessiné avec eux le profil idéal de ce que serait un studio qui les empêcherait d'aller ailleurs, justement.
Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce studio? Enfin, ces studios, parce qu'il y en a deux.
Alors, le studio, c'est la cabine son, comme celle que vous avez, vous, ici.
Comme
mais
ici,
elle
oui.
peut mettre en œuvre la salle de répétition de l'orchestre et un autre studio à côté, enfin un autre auditorium. C'est-à-dire qu'elle peut mettre en œuvre simultanément 2 salles. Ce qui permet, et ça c'était très vite identifié comme étant une singularité, elle permet à un compositeur d'enregistrer d'un côté l'orchestre, de l'autre la voix, ou un jazz band par exemple, et d'avoir du coup 2 prises qui sont très propres, donc faciles à retravailler derrière. Elle permet évidemment d'utiliser, ça c'était un objectif, il faut que l'orchestre puisse s'en servir pour lui-même, d'enregistrer la musique et la musique à l'image. Donc elle est équipée sur 2 différents process qui satisfont les deux ingénieurs du son, et spécialisés cinéma et spécialisés son. Il y a un parc micro tout neuf. Et enfin, il y a ce fameux son immersif qui est là, pour le coup, un apport du cinéma. C'est-à-dire, quand vous voyez à l'écran un camion passer, vous avez l'impression qu'il vous passe au milieu du cerveau.
Une question de notre coach, François Sigel.
Je dirais, pour un chef d'orchestre, globalement, c'est un autre métier, quoi. Je veux dire, vous avez cumulé les métiers, c'est une expérience absolument passionnante, quoi.
Parce alors, que c'est le même métier fait différemment.
Oui.
Mais au même temps, ça reconnaît complètement le savoir-faire français. Vous parliez de Mathieu Lambollé sur Minuscule. C'est extraordinaire de voir des compositeurs qui choisissent d'écrire pour le cinéma parce qu'ils y trouvent une liberté. De telle sorte à ce qu'aujourd'hui on a des talents. Desplat, que vous accueillez bientôt, je crois, tout à l'heure. Oui. Formidable, on est l'un d'entre eux.
Dites-moi, il a fallu faire un travail aussi avec les musiciens pour les mettre en concurrence, parce qu'il y a une concurrence dans la musique de film aussi.
Alors, vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça a été un combat? Je reviens 2 secondes en arrière, mais pas du tout. C'est-à-dire que non seulement
donc
on a rencontré...
Donc eux étaient persuadés que c'était
ils
la bonne chose
poussé,
à faire.
Ils nous ont j'allais dire, au fait. C'est-à-dire que lorsqu'on leur a dit, voilà, nous avons un projet, vraiment faire de l'Orchestre National de France, l'orchestre spécialisé dans la musique, mais c'est eux qui nous ont dit, allez plus loin. Aller plus loin dans l'accord que nous allons signer ensemble. Donc ça a été au contraire des partenaires extrêmement ambitieux pour leur orchestre, de telle sorte à ce qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'orchestre. Du coup, ce studio, il est fait évidemment pour que l'orchestre puisse enregistrer la musique de film lui-même, mais la grande majeure partie du temps, il est réservé à tous ceux qui travaillent déjà sur le territoire, de façon à ce qu'ils trouvent un nouveau nid pour les accueillir et accueillir leurs enregistrements. Ce n'est pas uniquement pour l'orchestre. Et d'ailleurs, c'est d'une façon minoritaire pour l'orchestre.
Mais je parlais de la concurrence avec les autres.
Avec le crédit d'impôt qui est le bienvenu, qui dorénavant, justement, embrasse l'enregistrement de musique de film, il nous faut la fermeture de Davout. Il faut au contraire qu'on soit plusieurs. Je ne crains pas la compétition. Je pense qu'au contraire, elle est très bonne pour générer un dynamisme, une émulation qui fasse que le territoire français redevienne le lieu de l'enregistrement de la musique.
Oui, parce qu'il y en avait. Il y en avait des studios.
Mais il y en avait
à la Grande Armée notamment, à Davout, vous en parliez, qui a fermé en 2017.
Exactement.
Donc ça n'existe plus jusqu'à ce que vous décidiez de faire ce projet.
Et on a même bénéficié de leur aide, puisque c'est des gens que nous avions interviewés pour savoir ce que nous faisions. Et jamais il a été question de dire « n'ouvrez pas, nous existons déjà ». Au contraire, ça a été des gens très 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 bienveillants. Et nous avons Marc Davout, qui est l'un de nos spécialistes, qui vient nous conseiller, qui est un ex de Davout.
Elisabeth, je voudrais qu'on s'intéresse aussi aux ateliers pédagogiques, parce que c'est important d'apprendre aussi, de faire connaître via les musiques de films, par exemple.
Via les musiques de films, via les doublages, via tout ça, tous les métiers
les
du cinéma, parce qu'on croit souvent que c'est un milieu extrêmement fermé et très petit. Et pourtant, il y a un atelier qui s'appelle l'Atelier Cinéma. C'est un programme qui a été imaginé par le CNC, le Centre National de Cinématographie, qui a pour objectif l'éducation à l'image, au cinéma, et donc en concertation avec le ministère de l'Éducation, l'atelier cinéma distribue à toutes les classes de CM1, CM2, 6e, un kit pédagogique, un peu comme un jeu de société, pour pouvoir s'initier, pourquoi pas trouver une vocation autre qu'acteur, qui là, c'est vrai, c'est un petit peu plus compliqué, dans le milieu du cinéma.
On reste ensemble, on continue à parler cinéma avec vous sur Europe 1.
Il est 13h28. La France bouge sur Europe 1 en matière de 7e art. La France bouge beaucoup avec ses entreprises qui travaillent en coulisses pour le cinéma tricolore. Les Césars, c'est ce soir à 21h sur Canal+. Et certains des acteurs de ce cinéma français sont autour de la table. Ils sont vos invités, Raphaël Duchemin. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. Hashtag Europe 1 pour Twitter. 39,21, 50 centimes la minute. C'est le standard d'Europe 1.
Il y a avec nous Sophie Frilet, co-dirigeante de Titra Film, Didier Diaz, PDG de Transpalux et exploitant des studios de Brie-sur-Marne, et Fabienne Voisin, directrice générale des studios d'Alfortville de l'Orchestre National d'Île-de-France. À mes côtés pour les accueillir, François Sigel, qui est notre coach, et ma complice, Elisabeth Assayag. J'avais envie de revenir au César, puisqu'on en parle, hein, Anissa. Vous en avez eu un de César, parce que ceux qui sont plus techniques sont remis un peu avant. Donc vous avez cette année, Sophie Frilet, le César de l'innovation pour une entreprise, une vieille dame qui a 85 ans.
De temps en temps, j'ai l'habitude d'appeler Titra la start-up de 85 ans.
La start-up.
Parce qu'en effet, c'est le deuxième César qui honore Titra Film. Nous en avons eu un en 2016 pour la renaissance de Titra Film et le passage de l'argentique au numérique. Et aujourd'hui, pour une société comme la nôtre, qui a remis en marche ses anciennes machines de gravure laser pour pouvoir continuer à graver la pellicule, puisqu'aujourd'hui nous sommes la dernière société à proposer ce service pour les réalisateurs qui sont toujours attachés à la pellicule. Et bien aujourd'hui, de recevoir ce César de l'innovation pour la création d'une plateforme qui nous permet,
MyTitra,
exactement, qui permet à tous les intervenants sur la création d'une version, d'un sous-titrage ou d'un doublage pour un film ou une série, de pouvoir avoir accès à la validation de toutes les étapes de fabrication, qui est une plateforme qui permet la sécurité, qui permet la communication, qui fait barrage à tous les canaux horaires que l'on peut avoir, puisqu'on travaille beaucoup avec des clients étrangers. Et bien, pour nous, c'est vraiment une très grande fierté.
Anissa, est-ce qu'on a quelques messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ?
Alors, il y a Marc Belaïch qui a une question pour Sophie Frilet, puis ça tombe très bien après ce César de l'innovation, parce qu'il vous demande si vous songez à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer vos traductions et vos sous-titrages.
Alors, bien sûr, nous y songeons. Nous sommes très attentifs à tout ce qui est nouvelle technologie. Nous y songeons pour faciliter le travail. A priori, en tout cas dans l'immédiat, pas pour remplacer l'intelligence humaine et pas pour remplacer l'expertise linguistique. Donc évidemment, ça fait partie des technologies que l'on explore de plus en plus.
Une question de notre coach,
oui,
François
Sigel. Dans le sens de la question de l'auditeur, c'est vrai que vous avez vu que les traducteurs universels maintenant arrivent. Ils vont être chaque jour un peu plus performants, un peu plus puissants. Ils vont adapter de plus en plus de langues. Est-ce qu'on va voir ça demain matin dans vos métiers ?
Écoutez, on a vraiment des audiences, et notamment en France, qui sont extrêmement exigeantes en termes de qualité linguistique. Beaucoup de polémiques très, très régulièrement remontent sur les mauvaises qualités de sous-titres, d'adaptation de certains grands films, et il y en a actuellement quelques-unes. Pour nous, vraiment, cette qualité linguistique qui fait appel à un bagage, qui fait appel à une culture, qui fait appel à une réelle compréhension, nous semble primordial.
Et c'est quel Pardon,
oui, je vois le temps tourner, donc je voudrais donner la parole effectivement aux autres invités. Didier Dias, je voudrais savoir si aujourd'hui vous avez le sentiment que l'économie du cinéma est en train de repartir en France. Est-ce que c'est quelque chose qui va justement permettre de plus en plus de tournages chez vous ou sur d'autres plateformes, hein? On parlait de la Provence, il y a aussi les Hauts-de-France, du côté de Montpellier, énormément de studios qui sont en train de se monter. Est-ce qu'il se passe quelque chose vraiment?
Il se passe quelque chose, je vais encore me répéter, mais bien sûr il se passe quelque chose, et je le dis encore une nouvelle fois grâce au crédit d'impôt,
oui.
Mais on le voit en ce moment, si vous voulez, les films étrangers que nous avons, style le Wes Anderson, le film de Polanski qui est resté en France, enfin bon, etc. Puis des films qui arrivent, il y a 3 films américains qui arrivent, donc tout ça, ça vient pour des raisons bien qui sont évidentes, qui sont le crédit d'impôt. Sinon, ça partait en Tchéquie, ça partait dans tous les films des pays de l'Est, comme d'habitude. Pour vous donner une
comme
idée...
Comme d'habitude,
sur...
ça fait combien de temps qu'ils s'en vont, justement, ces films? Et que là, ils commencent à se réintéresser à nous.
Un film qui comme Mission Impossible, qui se tourne à Paris. On a tourné à Paris que les extérieurs parisiens. Dès qu'il a fallu aller en studio, ils sont allés à Londres.
Mais pourquoi?
Par exemple, pour des raisons de si vous voulez, oui, il y a l'histoire d'argent, bien évidemment, tout le temps. De toute façon, dès qu'on parle cinéma, on parle d'argent. Mm-hmm. Donc c'est très simple.
Donc, on est quand même sur des gros budgets, ils ne sont pas forcément très regardants, si,
si
quand même.
Si, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a des sommes qui sont, par exemple, la chambre de M. Tom Cruise en France, c'est 400 euros. C'est pas 400 euros la réalité, hein. C'est 2000 euros, donc on est quand même loin du compte. Donc c'est un petit peu compliqué ce genre de choses. C'est pour ça que le crédit d'impôt, il était très important. Aujourd'hui, il y a certains qui le contestent, on devrait encore l'améliorer. C'est ça le problème.
Vous avez aussi parlé de ce fameux crédit d'impôt qui vous a manifestement beaucoup aidé. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est en train de redémarrer aussi de votre côté, dans votre partie, qui est la partie musicale, pour le coup?
J'ai l'impression qu'il y a une conscience de ce que le cinéma peut engranger sur les territoires. J'ai le sentiment qu'au-delà d'aider, parce que finalement le crédit d'impôt vient donner une impulsion, un levier, on observe que les conséquences de relocaliser sont économiquement extrêmement forte. Et surtout, ça permet notamment dans l'animation, parce qu'on n'en parle pas, dans l'animation, on a une fierté française où la plupart des professionnels d'animation sont formés en France et ensuite vont dans les grands studios d'animation. Il y a derrière un enjeu économique qui, tout d'un coup, alors évidemment, en période de crise, tout mis bout à bout est important, et pèse extrêmement puissamment sur les économies des territoires. Et donc les régions, et en tout cas moi je reparle de la région Île-de-France qui effectivement a soutenu la naissance du studio.
Mais ça va peut-être donner des idées à d'autres pour ouvrir d'autres studios ailleurs en France. Mais ce serait une bonne chose.
Et ce serait une très bonne chose. Derrière, il y a de l'emploi, derrière il y a de l'économie, les équipes consomment sur place. Enfin, si on dézoome un tout petit peu ce qui se passe, évidemment que ça produit quelque chose.
On va vous remercier et on va attendre évidemment la cérémonie des Césars ce soir, 44e édition. On va en parler d'ailleurs sur Europe 1, Nissa.
Oui, tout à l'heure à 16h, Carl Zéro reçoit Alexandre Desplat, qui est un grand compositeur de musique que vous connaissez bien sûr. Il est nommé au César et il est nommé aux Oscars aussi dimanche soir à Hollywood. On va suivre ça et on vous tient au courant sur Europe 1, bien
Merci
sûr.
D'avoir été avec nous aujourd'hui
Merci
dans La France qui bouge.
Il est 13h38.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle existe depuis 1885, cette ébénisterie d'art sublime les savoir-faire moissonniers et dans quelques minutes, l'entreprise qui va bien, merci.
Bon. Europe 1. Et jusqu'à 14h, vous écoutez Raphaël Duchemin avec La France qui bouge chaque jour. Et chaque jour, Raphaël Duchemin, vous nous prouvez qu'il y a des entreprises qui vont bien. Celle d'aujourd'hui fait de l'ébénisterie d'art.
Oui, cette entreprise, c'est Moissonnier. Bonjour Christine Duval.
Bonjour Raphaël.
Merci.
Bonjour à tous les auditeurs.
À mes côtés, Elisabeth Assayag. Bonjour. Et notre coach François Ségel. Vous êtes la directrice générale de cette ébénisterie d'art qui date de, je le disais tout à l'heure, 1885 et qui a du coup le label Entreprise du patrimoine vivant. Moissonnier qui est le nom d'Émile, évidemment, le fondateur.
Tout à fait. L'entreprise a été créée par une famille d'artistes. Avant d'être ébénistes, ils étaient peintres, sculpteurs. C'est très important de le dire parce qu'au-delà de la technique, être artiste, c'est avoir l'œil, c'est avoir l'audace de créer des choses et d'ouvrir des voies. Et si Moissonnier aujourd'hui en fait, peut réaliser des chantiers dans le monde entier, des projets résidentiels avec des architectes d'intérieur, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu cette audace de dire On est une maison de Bourg-en-Bresse, dans le sud-est de la France, mais on peut aller faire une brasserie française à Bakou, en Azerbaïdjan, par exemple.
Mais à l'époque, on fait surtout du mobilier régional, quand ça démarre. En tout cas, c'est un peu le tout venant, les pétrins, les bahuts, enfin ce genre de choses.
Exactement. Alors ça s'appelait le mobilier bressant, et c'est vrai que quand j'ai vu ça dans l'entreprise, je me suis dit, bon, il y a vraiment en fait de grandes étapes qui ont été passées. Et parmi ces grandes étapes, en fait, donc après Émile, il y a eu Gabriel
fils,
et Paul, les deux fils, qui ont créé en fait la manufacture.
Eux qui commencent à développer vers les années 20 les...
Alors, en 1950, ils créent cette manufacture, c'est-à-dire qu'ils créent l'outil en fait, qui va permettre d'aller plus loin. Et dès les années 1960, les pièces de moissonnier, d'ébénisterie, étaient vendues chez Bloomingdale's à New York,
le grand magasin Bloomingdale's.
Exactement. Ensuite, Annie-Pierre et Jean-Loup Moissonnier, donc la troisième génération, arrivent de Paris, de l'univers de la mode, de l'univers de la photo.
Là, on a vraiment le tournant artistique. Hein, parce
exactement.
Que lui est photographe pour Vogue, je crois.
Voilà,
et son épouse styliste à Paris, c'est
exactement.
Ça. Donc ils arrivent avec tout ça dans leur bagage pour reprendre l'entreprise.
Exactement, donc ils sont arrivés un petit peu, je dirais pas forcés parce que ça, chacun a son chemin et ce qui doit être est. Néanmoins, ils arrivent avec leur fibre artistique également, leur parti pris et cette audace qui caractérise Moissonnier. L'univers de la couleur, ce qui fait aujourd'hui l'émotion quand on voit une pièce comme... quelque part un tableau, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup, c'est waouh. Et quand un client dit waouh, c'est voilà.
C'est eux qui mettent de la couleur, des motifs aussi sur les meubles. Et c'est ça qui fait décoller encore plus l'entreprise et finalement son aura à l'étranger.
Exactement, ce qui fait vraiment l'ADN de Moissonnier, au-delà de l'excellence du savoir-faire de l'ébénisterie, c'est le travail de la finition, de la patine, des couleurs. C'est plus de 15 étapes pour arriver à délivrer une pièce moissonnier dans la qualité attendue, parce que faire une belle pièce, c'est bien, mais la dupliquer en plus de 2500 exemplaires, c'est un autre challenge. Et c'est vrai que cette finition nous permet de faire des pièces uniques. Voilà, si les auditeurs nous écoutent, vous avez envie demain d'avoir un
faut
dessin.
Il hein. Faut aller voir parce que voilà. c'est effectivement assez frappant. Quand je disais la couleur et les motifs, c'est pas pour rien. C'est vraiment une marque de fabrique. Vous êtes aujourd'hui une des marques françaises de luxe que connaissent beaucoup les étrangers. C'est eux qui font 80% de votre chiffre.
Oui, tout à fait. Plus de 90% du chiffre d'affaires.
Plus de 90%.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui encore, par ailleurs, vous avez un souci, comme au début, comme finalement quand on est avec Émile à Bourg-en-Bresse, parce qu'à proximité, c'est très boisé, et c'est pour ça qu'il s'installe là et qu'il fait cette activité-là. Aujourd'hui, vous avez toujours ce même souci, c'est-à-dire rester en local, vous fournir en local, avec des scieries locales. Je crois que c'est 60% du bois utilisé qui vient d'entreprises situées à moins de 5 km de chez vous.
C'est vrai que pour pouvoir en fait aller loin, je dis toujours qu'il faut être ancré et être fidèle à ce qui fait les racines de l'entreprise. Et le fait de continuer à fabriquer en France, c'est vraiment un point d'ancrage fort, parce que les clients du monde entier, en fait, viennent chercher quoi ? Viennent chercher cet art de vivre, viennent chercher tout ce qui fait la France, la haute couture, la gastronomie. C'est cette image qui est incarnée aussi dans les fabrications de moissonniers.
Que dit notre coach François Sigel ?
Mais on achète un moissonnier, c'est-à-dire on va chercher cette marque, parce que globalement c'est toujours du bois ou vous acceptez d'autres matières ou c'est vraiment 100% bois ? Je voudrais savoir. Et puis la question aussi, puisque vous vendez très peu en France, c'est une question de prix. Qui sont vos clients étrangers, les principaux clients ? C'est quoi votre gamme ? Ça commence avec quel produit jusqu'à quel...
Oui, est-ce que c'est à portée de tous les portefeuilles ?
Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, le savoir-faire de l'entreprise est un savoir-faire de l'ébénisterie. Donc, nous sommes amenés à fabriquer du mobilier, mais également des boiseries, des dressings, tous les savoir-faire qui viennent à l'origine du travail du bois. Mais quand on prend une pièce de mobilier, il y a du bronze aussi, on travaille avec des savoir-faire associés, fonction de nos besoins. Si nous travaillons aujourd'hui en fait beaucoup avec des clients étrangers, cela ne veut pas dire que nous ne vendons pas à des clients français. Je dirais que Moissonnier, en termes de positionnement prix, puisque vous évoquez le sujet, est vraiment... un produit qui a le prix juste. C'est le prix du luxe de la belle facture. C'est le prix du temps passé pour faire les choses. Mais nous ne sommes pas plus chers que des marques italiennes qui fabriquent en série. Donc je dirais que le prix n'est pas un frein, forcément. Mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur, en fait.
Il y a aussi un gros travail sur les savoir-faire et la transmission des métiers. J'allais dire du métier, mais non, des métiers, parce qu'il y en a plusieurs.
Complètement. Quand nous avons repris l'entreprise, c'est une transmission familiale il y a 10 ans. Ma crainte, c'était de me dire, voilà, est-ce qu'on va trouver des jeunes ébénistes qui vont vouloir travailler chez Moissonnier? On a cette chance en France d'avoir les meilleures écoles des métiers d'art. Qu'il s'agisse de l'école Boulle, des écoles des métiers d'art. Et il y a un vrai retour au savoir-faire, à l'intelligence de la main. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons à la fois des jeunes qui sortent des écoles et qui sont formés en interne par un tuteur. Il faut à peu près un an pour avoir l'expertise de la finition Moissonnier.
C'est Moissonnier 1885, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Merci Christine Duval d'être venue nous en parler aujourd'hui.
Non, je vous en prie, merci beaucoup à vous parce que vous nous aidez aussi à continuer à faire ce que l'on aime faire.
C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours dans La France qui bouge. Merci d'avoir été là.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, on va s'intéresser, si vous partez au sport d'hiver, à une chaussette qu'on enfile sur les pneus avant de monter en voiture. Elle s'appelle Musher et c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est le jour des vacances pour la zone C. D'autres rentrent de vacances, en tout cas. Si vous partez au ski du côté de la neige, voici une solution pour vous.
Ah oui, il y en a certains qui partent skier, effectivement, d'autres qui vont rentrer. Elisabeth, votre solution d'aujourd'hui, c'est d'en finir avec les célèbres pneus neige grâce aux chaussettes à neige. C'est pas une plaisanterie, hein, c'est une entreprise française qui les fabrique.
Oui, les chaussettes à neige remplacent les chaînes à neige. Ce sont des sortes de surpneus. C'est un anti-glisse fabriqué en France, homologué, certifié, qui est censé être très efficace sur la neige, sur la glace, mais aussi sur le bitume. C'est l'entreprise Musher qui les fabrique. Avec ces surpneus, vous pouvez rouler jusqu'à 50 km/h sur les routes enneigées et verglacées. Vous pouvez même les conserver en roulant sur une trentaine de kilomètres sur un sol sec, sans avoir à enlever les surpneus. Ils sont indéchirables, réutilisables, garantis 2 ans. En fait, c'est le pneu idéal, hein, si je comprends bien. Et en plus, c'est facile à monter, seulement en 5 petites minutes.
Ouais, c'est normal, hein. Bonjour Bernard Darniche.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Spécialiste de la route, c'est vous qu'on appelle à chaque fois qu'on a un problème pour se déplacer en voiture. On vous connaît évidemment en tant que champion de France de rallye automobile. Vous êtes aussi le cofondateur du coup de la société Musher qui fabrique ces pneus. Racontez-nous, comment est-ce qu'elle démarre cette aventure?
Pour moi, c'est simple. Je pars du principe que, entre guillemets, de la communication à la publicité, je ne la fais pas si je ne suis pas directement impliqué dans le système. Donc, si je n'ai pas participé à l'élaboration et à l'idée initiale. Ça part d'un constat simple. Aujourd'hui, en France, on appelle au secours aussitôt qu'il y a 3 mm de neige.
Oui, c'est vrai.
On déverse des milliers de tonnes de sel qui vont dans les nappes phréatiques. Moi, ça m'interpelle. Et donc, il est tellement facile d'avoir ou des pneus tout temps, c'est-à-dire neige, ce n'est pas le lot de tout le monde et la volonté de tout le monde et le budget de tout le monde. Donc on a pensé à une solution alternative, temporaire, facile, parce qu'une fois dans ma vie, j'ai essayé de mettre des chaînes.
Oh là,
plus
ne
jamais,
m'en parlez pas.
Mais plus jamais, c'est pas possible.
D'ailleurs, vous dites que c'est la pire des choses.
C'est la pire des choses.
Oui,
les chaînes, c'est quelque chose. C'est ce qui provoque les embouteillages au pied des cols. Quand justement les gens qui partent en vacances, on ne peut pas rouler sur l'asphalte avec des chaînes. Donc on attend le moment où on est sur la neige, mais tout le monde attend le même moment.
Le même moment. Donc
et tout le monde est bloqué au même moment. C'est surréaliste. Ça fait 40 ans que ça dure et rien n'a changé.
Sauf que maintenant, ça va changer.
Alors là, ça va changer grâce à vos pneus chaussettes, hein, chaussettes à neige. Comment ça fonctionne? C'est un kit que vous vendez?
Oui,
c'est quoi
alors, exactement? Il y a un package, hein, évidemment. Dans ce package, il y a les deux chaussettes à neige, puisqu'elles sont vendues par deux pour mettre sur les roues motrices, évidemment. Il y a un petit tapis pour se mettre à genoux, pour ne pas salir son pantalon.
Quand
il
on
y
va
a
les
des,
mettre.
Il y a des manchettes et des gants, parce que le Musher est tricoté d'une seule pièce, et la partie qui est en contact avec le sol, il y a un tricot avec une trame métallique dedans.
Et donc on les enfile sur
on
le pneu.
On
sur
les
le
enfile, il y a eu de la neige encore il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Je les ai mis, très facilement, en 5 minutes maximum. On fait un demi-tour, on les passe derrière, on avance la voiture d'un mètre et puis on finit de les monter. Il n'y a pas de fixation, elles sont à mémoire de forme, c'est auto-formant. Donc une fois que c'est sur la voiture, on roule avec, il y a une très forte adhérence sur la neige. Évidemment, quand il y a des parties sèches, asphalte,
ça tient quand
il faut
même.
Quand même, faut faire attention. Mais on ne sait même pas si on les a. Aucun bruit par rapport aux chaînes, aucun bruit. On ne sait pas si on les a sur la voiture. Justement, c'est le piège. On ne peut pas rouler à 80 à l'heure avec ce produit, évidemment, parce que ça le détériore. Mais on peut rouler jusqu'à 50 à l'heure. Et moi, j'ai exagéré. Hein. La dernière séance de neige, je les ai mises et je me suis fait les périphériques à 70 pendant deux jours. J'ai voulu les détruire encore une fois. J'avais essayé la dernière.
Et vous avez réussi ?
Et j'ai quand même fait 70 km.
C'est pas,
c'est pas recommandé. Hein. Elles ne sont pas garanties au-dessus de 50 km.
Alors combien ça coûte ?
Ça dépend de la dimension, évidemment. Alors, on a un prix qui, évidemment, est comparé avec tous nos autres concurrents qui sont fabriqués à l'extérieur de la France.
Vous, c'est en France.
Nous, c'est fabriqué à Saint-Étienne. Hein. C'est fabriqué à Saint-Étienne. C'est un produit français imaginé par Daniel Besse, qui est mon associé dans la société, parce que je suis partie prenante dans cette société. C'est une entreprise familiale. On s'est rencontrés par hasard sur les réseaux sociaux. Il m'a laissé entendre cette idée. J'ai dit banco. Comme toutes les idées qui sont chères à mon cœur, je veux qu'elles puissent bénéficier. Vous savez, il faut pas être ambitieux dans la vie, mais un tout petit peu de mieux dans la vie de chacun. C'est ça qu'il faudrait faire.
Que dit notre coach, François Cégep ?
Bah, il dit enfin, quoi. Enfin. Il y a quelques jours, j'ai renoncé à un voyage à cause de ça, parce que je devais aller dans les Vosges, il y avait des menaces très sérieuses de neige.
Il faut m'appeler.
Mais je ne savais pas que ça existait.
Enfin, alors,
voilà. Je me suis dit non, les chaînes, là, c'est juste pas possible. Je me souviens de cauchemar, quoi. Mais c'était un cauchemar. Il neige, vous êtes obligé de vous allonger. C'est évidemment la nuit, en général. Il fait nuit à 5 heures, ces périodes de la journée.
Puis un autre élément, François, qui est très, très important, c'est que les chaînes ne vont pas sur toutes les voitures. Beaucoup de voitures aujourd'hui avec des pneus très bas sont non chaînables. On ne peut pas. On ne peut pas passer la chaîne et ce n'est pas possible. Le musher anti-glisse, on les met sur... j'ai une voiture non chaînable hein, aujourd'hui, une auto avec des toutes petites sur 45 et j'ai monté mes mushers très facilement dessus et je les ai démontés encore évidemment plus facilement.
Alors le prix ? Ça dépend de la taille de la voiture.
110 euros pour les grandes dimensions. Moi, j'ai 19 pouces.
Donc, c'est jusqu'à 110 euros.
C'est énorme, 19 pouces.
Et ça commence
pouces,
à combien hein.
Pardon ? Ça commence à 70 euros.
D'accord, entre 70 et 110.
Voilà, c'est une fourchette.
Et c'est aussi sécurisé que des pneus classiques. En fait, c'est juste une petite protection.
Homologué, hein.
Voilà, c'est homologué.
C'est homologué.
Donc, en termes de sécurité,
c'est fait
c'est
très
parfait.
Sérieusement. Et puis, contrairement aux chaînes, quand une partie se détériore, c'est du métal qui s'en va. Ça vous arrache un flexible de frein. C'est très pénalisant pour la voiture. Ça peut même vous abîmer une aile. Alors que le musher, s'il s'en va, s'il se détériore, ben il s'en va. C'est du tissu tricoté qui est tout à fait indolore pour la voiture.
Le musher, vous en avez vendu beaucoup déjà ?
On double, on triple la production chaque année. Vous me direz, on a commencé il y a 4 ans, ça n'existait pas. Donc forcément, on fait des scores incroyablement intéressants. Mais quand on va développer ça sur l'Europe, on va faire des très 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 gros chiffres. Les grands distributeurs commencent à nous distribuer. Les Carrefour et compagnie, les Leclerc et compagnie nous distribuent maintenant.
Le musher, signé Bernard Darnich, donc à mettre sur vos pneus si vous partez. Hein, ça y est, là, bah c'est
oui,
les vacances.
Il y en a qui partent ce soir.
Évidemment.
Soyez chance.
Merci à François Cégep qui était avec nous. Je signale la sortie de Oui Demain, la revue pour changer d'époque. Le dernier numéro, Climat, la révolte citoyenne est lancée. On en parlait justement dans le journal tout à l'heure. Nous, on
mais
se
non,
dit
pas
à lundi.
Ah ben bah non, vous ne serez pas là.
Non, vous êtes au Salon de l'Agriculture. Je serai au Salon de l'Agriculture toute la semaine.
Merci,
bien sûr.
Merci Raphaël Duchemin.